Hello, chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval. Alors, ce podcast est complémentaire au blog. Sur le blog, on reste axé vie quotidienne et on va de plus en plus parler exercices, conseils et entraînement. Alors, le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision à eux du lien entre un cavalier et son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre lien avec les chevaux. D'ailleurs, si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Par exemple, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire ou un like, partagez. Ça m'aide en fait, ça me file de l'énergie pour vous trouver de nouveaux invités et ça m'aide à gagner en visibilité évidemment. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Le mort leur va si bien ». Alors c'est un titre un petit peu provocateur parce que mon invité du jour, Géraldine, est beatfitteuse. Si le saddle fitting c'est l'adaptation de la selle, le beatfitting, vous l'aurez compris, c'est l'adaptation du mort. Ou du sans mort en fait. Car Géraldine vous en parlera, bien que trompeur, cette expertise comprend la bouche mais aussi la tête du cheval. Le mort, c'est l'un des moyens de communication que l'on met très rapidement dans les mains des cavaliers. C'est l'épreuve des débutants quand il faut le glisser dans la bouche de son cheval pour la première fois. C'est aussi l'épreuve des plus aguerris quand il faut acheter son premier mort pour son premier cheval ou quand il faut le changer. Mais c'est aussi l'épreuve de tous les chevaux quand ils ne leur conviennent pas ou qu'ils sont mal utilisés. Alors aujourd'hui, il n'est nulle question de faire une polémique et de créer la guerre entre les avec mort et les sans mort. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. La réponse est toujours plus complexe et toujours plus personnelle qu'elle n'en a l'air. Géraldine d'ailleurs nous en parlera. Enlever le mort n'enlève pas forcément les problèmes. Alors comment choisir son mort? C'est quoi un bon mort? Y a-t-il une part de marketing dans les myriades de morts proposées? Comment fonctionne une en azur? Comment on reconnaît un cheval qui est décontracté? Et par curiosité, c'est quoi un bon contact? Quelle est la force qu'un humain peut mettre quand il est fâché et qu'il tire sur ses rênes? Géraldine vous donnera des petits conseils tout au long de l'épisode dans un seul but, vous aider à avoir un cheval mieux dans sa bouche et surtout trouver le moyen de communication qui vous conviendra le mieux à vous, cavalier, avec votre posture, vos convictions, votre discipline et vos envies. Pour retrouver mon article sur ma séance de beatfitting avec Géraldine, vous pouvez aller voir sur le site de J'entraîne mon cheval. L'article s'appelle « More and Best, un mort, mais en mieux ». Il est temps de lancer l'épisode « Le mort leur va si bien ». C'est parti. Je vous préviens juste, avec Géraldine, nous étions dans un restaurant, donc il peut y avoir des petits bruits de fond, mais ce qui n'enlève rien à la qualité du contenu que Géraldine va vous donner.
Il n'y aura pas de bruit de cheval, par contre.
Zut. Allez, je lance. Donc, bonjour Géraldine.
Bonjour Angélique.
Ça va?
Très bien.
On vient de manger avec Géraldine, c'était super bon. Moi, j'ai pris des frites et un steak. Et c'était canon. Ça nous permet d'avoir discuté avant le podcast. Et Géraldine est beatfitteuse et aussi dentiste. Et donc, je l'ai retrouvée après une consultation de dentisterie en Belgique. Donc, Géraldine, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Donc, tu es dentiste, ça c'est facile pour comprendre pour les gens, mais tu es aussi beatfitteuse.
Oui.
Alors, beatfitteuse, ça veut dire quoi?
Alors, le beatfitting est une spécialisation concernant l'harnachement de la tête et de la bouche du cheval. Donc, je suis spécialiste en ce qu'on appelle embouchure, en azur, donc mort et bridon. Voilà.
Du coup, malgré le nom beatfitting, qui littéralement se traduirait plutôt par bien aller du mort, tu fais aussi des équipements où il n'y a pas de mort.
Exactement. Alors, le beatfitting, en fait, c'est vrai qu'au départ, on en a parlé, on a choisi ce terme-là de beatfitting qui concerne donc les morts, parce qu'on était particulièrement sensibilisés à la problématique des embouchures pour les chevaux. On faisait partie aussi surtout de nos problème en tant que dentiste, c'est-à-dire qu'on avait des chevaux avec des lésions dans la bouche et nous étions quelques dentistes à se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux cavaliers? Et surtout, on recevait aussi de notre côté les questions des cavaliers, que pouvez-vous me conseiller comme embouchure? De ce fait-là, le terme a d'abord débuté et la profession a d'abord commencé avec l'adaptation du mort. Mais on est très vite passé aussi à l'adaptation du filet, puisqu'en fait, ça fait partie de l'harnachement du cheval, il est tout aussi important, et par là même aussi à l'adaptation du sans-mort, parce que beaucoup de cavaliers alternent mort et sans-mort. Dans certains cas aussi, où il y a vraiment malheureusement des lésions dans la bouche, on est obligé de passer dans ces cas-là au sans-mort. On a aussi des choix donc personnels du cavalier, on a aussi les préférences du cheval, etc. Et cela fait partie de notre spécialité. Alors même si le terme est resté de bit fitting, il est très global et concerne aussi ce qu'on pourrait parler qui est une, on va dire une branche sœur, le bridle fitting, donc qui concerne en fait l'adaptation du bridon. Donc de ce fait-là, il faut faire attention aussi parce que on se pourrait d'avoir la terminologie bridle fitting qui va concerner l'adaptation du filet. On a aussi les bitless fitting, c'est-à-dire les personnes spécialisées aussi à l'adaptation des enasures, et donc ça rend en fait les choses un peu compliquées. Donc c'est vrai que pour rester simple, on va dire toujours en comparaison avec le saddle fitting qui va aussi faire l'adaptation de la sangle, on n'a pas de spécialiste en sangle ou en amortisseur, on a un spécialiste en selle. Et bien nous c'est pareil, le spécialiste en mort est aussi un spécialiste en bridon et en azure.
Ok, c'est l'équipement complet en gros.
Exactement.
Ça marche. Alors, j'ai fait appel à toi pour le choix de mon mort jadis, parce que un jour, j'ai voulu changer de mort pour cantade, et puis j'ai tapé sur Google, mort, acheter mort, équitation, etc. Je suis tombée sur plusieurs sites, et puis un des sites en particulier était particulièrement fourni, puisque j'ai trouvé 25 pages avec 24 modèles par page. Ça fait à peu près 600 possibilités. Donc, comment choisir un mort parmi ces 600 possibilités ? Est-ce que toutes ces possibilités sont utiles ? Et puis un mort, ça marche comment ? Bon, ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup, là. Alors, on va rester sur choisir un mort. Comment ça se fait ?
Alors, choisir un mort, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Pourquoi ? Parce qu'on a non seulement l'anatomie de la bouche du cheval, très importante, alors aussi la qualité aussi de sa dentition. C'est-à-dire, il y a des chevaux qui ont des problèmes de bouche, des problèmes dentaires. Ils vont être beaucoup plus sensibles et de ce fait-là, on devra également adapter l'embouchure. Donc ça, c'est déjà très important. Donc choisir un mort, ça va déjà dépendre de ça. L'anatomie du cheval, on va dire. Tous ces problèmes de santé. Et souvent, les personnes en consultation me disent « Mais qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ?» Je dis « Je dois tout savoir. » Est-ce que le cheval est en bonne santé ? Est-ce qu'il n'a pas eu de tendinite ? Est-ce qu'il n'a pas de problème de dos ? Etc, etc. Parce que toute la locomotion du cheval va être importante par rapport à ses réactions, par rapport au choix du mort. Et du bridon aussi, bien sûr. Donc ça, ça va déjà rendre un peu les choses, c'est vrai, compliquées. Alors, je dirais pour vous, en tant que cavalier, demandez d'abord, au moment du passage du dentiste, de pouvoir regarder vous-même dans la bouche du cheval, savoir déjà s'il a beaucoup d'espace, peu d'espace, s'il y a des plaies qui sont présentes ou pas, qui peuvent être dues, par exemple, à un mort précédent ou au passé du cheval. Savoir l'épaisseur de la langue, c'est très important aussi. Et ça va vous donner des indications, déjà, pour faire votre choix de mort par vous-même. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que, sinon, ça va relever du casse-tête. Alors, un pré-sain, au niveau de la pertinence de choix, choisissez toujours simple pour commencer. C'est vrai que si on voit 600 types de morts différents, c'est énorme, mais il y en a certains qui sont très compliqués. Et on va comparer ça avec des paires de chaussures. Pour aller faire de la promenade, on ne va pas aller choisir des chaussures à haut talon. Donc, ça va un petit peu vous aider dans le choix du mort. Essayez de faire simple pour commencer.
Simple, du coup, c'est droit, simple brisure,
double brisure. Ouais. Exactement. Mmh. Des petits modèles de base, on va dire. Okay. Voilà, tout simple. Donc déjà, ça va vous éliminer pas mal de morts sur les pages d'un site.
Ouais, c'est clair.
Ça va faire moins compliqué. Donc déjà, comme je vous ai dit, le premier guide, le premier conseil peut être demandé à votre dentiste, observez la bouche de votre cheval. Ça va vous aider pour un point. Deuxième point, essayez de faire simple. Après ça, l'utilisation qu'on va en avoir, c'est vrai que ça va être très différent. Est-ce qu'on va aller faire une heure de balade par semaine avec son cheval ou est-ce qu'on pratique une discipline un peu plus compliquée ? On va dire, vous faites du dressage, vous avez besoin aussi d'un mort de bride. Donc, ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Mais de ce fait-là aussi, à nouveau, dans votre choix du mort, si vous regardez sur un site, vous verrez précisément il y a des morts qui concernent plus une discipline que l'autre. C'est-à-dire qu'on a des morts de dressage, on a des morts de CSO, on a des morts western. Donc, évidemment, ça va déjà éliminer aussi dans votre choix. Par après, on a les règlements aussi. On a les règlements de la FFE, on a les règlements de la FEI. Là aussi, si vous faites partie d'un club et vous allez faire quelques petites compétitions, bien regardez aussi le règlement puisque tous les types de morts ne sont pas autorisés. Donc, ça va de nouveau vous aider et vous guider dans votre choix.
Il y a des morts simples. Donc, je dis qu'ils se passent un petit peu partout, mais c'est peut-être pas le cas. Mais entre un droit, un double brisure et un simple brisure, toi, après, quand tu fais ta consultation, tu orientes parce que le cavalier a des préférences déjà lui-même ou tu vas essayer tous les modèles sur le cheval ou tu as déjà des indications quand tu le regardes de « ah bah ça ira bien » ou « ça ira moins bien ».
Oui, souvent j'ai déjà des indications dans ce que j'observe, donc dans la partie, on va dire, anamnèse du cheval et check-up, donc dans leur historique, dans ce que j'aurais aussi senti à la palpation, dans les problèmes du cheval, par rapport à sa conformation, sa bouche, etc., par rapport aux problèmes aussi du cavalier ou pas. Donc, et puis après, par rapport à l'observation que je vais faire en dynamique du cheval sous la selle, monté par son cavalier, de voir un petit peu quelles sont les réactions du cheval par rapport à la main du cavalier, évidemment très importante. Et de ce fait-là, je m'orienterai plutôt vers l'un ou l'autre choix. Après, ceux qui auront le mot final, on va dire le mot de la fin, c'est tout bien sûr le cheval d'abord, puisqu'on vit son confort, et puis aussi le cavalier qui doit avoir un bon ressenti de la main. Voilà.
En quelques mots, un mort droit, un mort simple brisure et un mort double brisure, ça marche comment ?
Alors, ça va répartir les pressions de façon différente, que ce soit sur la langue du cheval, le palais, les barres, les lèvres et aussi en fonction du type de modèle.
D'accord.
De ce fait-là, certains chevaux qui sont plus sensibles sur la langue vont préférer un modèle plutôt que l'autre.
D'accord.
Alors là, les choses vont se compliquer aussi parce que même en simple brisure, même en double brisure, on peut avoir des types de morts qui vont plus ou moins mettre de pression, par exemple, sur la langue, plus ou moins mettre de pression sur le palais, plus ou moins sur les lèvres. Donc, c'est très difficile de dire, voilà, dans tous les cas, vous devez choisir un droit. Dans tous ces cas-là, vous devez choisir un simple brisure. Ça devient très compliqué puisque ça va vraiment dépendre du modèle de mort, même si on reste dans une de ces grandes tendances, droit, simple ou double.
Oui, bah, je me rappelle que tu m'avais fait essayer un double brisure que j'ai aujourd'hui. Et tu m'avais fait essayer un autre modèle juste après. Et la seule différence entre les deux, c'était l'orientation de la partie centrale.
Exactement.
Soit c'était plus plat le long de la langue, soit c'était plus au niveau de la tranche, en fait.
Oui.
Et rien que ça, ça m'avait changé mon cantade. Il était ronchon sur la deuxième.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, ça devient très difficile aussi de dire, voilà, il faudra plus celui-là ou celui-là, parce que c'est vrai que c'est le cheval qui aura la décision finale, même si on s'oriente dans une catégorie de mort qui va convenir au cavalier, par exemple, mais peut-être pas au cheval.
Alors bon, on a fait le tour des modèles, on va dire passe-partout. Et est-ce qu'il y en a, quand tu les vois, tu te dis, déjà de base, c'est une aberration, ce mort. Ça ne devrait pas exister.
Sûr et certain. Il y a des modèles qui, déjà, au niveau anatomique, ne vont pas correspondre. Il faut penser, la bouche d'un cheval, c'est plutôt rond. On a beaucoup d'arrondis. Et certains types de morts, on va dire, sont plutôt carrés. Alors, ça ne va peut-être pas toujours faire bon ménage. Mmh, voilà. Mmh. Alors, ça, c'est déjà un point auquel il faut bien réfléchir. Pensez d'abord, déjà par vous-même, et j'invite tous les cavaliers, à regarder la bouche de leurs chevaux. Pourquoi ? Parce qu'ils verront par eux-mêmes que peut-être que le mort qu'ils viennent d'acheter ne convient déjà pas du tout dans la bouche du cheval. Et il ne faut pas être beatfitter pour le voir. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et c'est vrai aussi que dans le guide d'achat qu'on va avoir, mais c'est vrai aussi que certains modèles, on pourrait se mettre à réfléchir et se dire, ça n'ira peut-être pas du tout dans la bouche de mon cheval. Voilà. Du coup, ce n'est pas parce que c'est sur le marché, pas parce que c'est commercialisé et parfois avec beaucoup de publicité autour que ça va convenir ou que c'est un bon mort.
Est-ce qu'il y a des modèles où tu dis quand même, attention ? Alors, ça, je ne vais pas dire que ça peut convenir ou que ça peut ne pas convenir, mais est-ce qu'il y a des modèles où je pense par exemple à ceux qui sont torsadés, à ceux qui ont des arêtes. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument les bannir, je peux comprendre que parfois c'est utile, mais est-ce que quand même, toi, tu mettrais une alerte ?
Oui, c'est sûr et certain qu'il y a des morts qui ne sont pas à mettre ni dans les bouches ni dans les mains de tout le monde. C'est là, pareil pour les filets et les enasures également. En fait, il y a une gradation dans le type de matériel. C'est-à-dire qu'il y a du matériel, on va dire, tout type de matériel, même un mors simple, peut provoquer une blessure dans la bouche du cheval, mais on aura moins de risques de dégâts avec certains types de matériaux que d'autres. Donc, c'est sûr qu'on pourrait mettre un classement et faire une échelle de gravité, on va dire.
D'accord.
C'est-à-dire, dans ce cas-là, ben, on n'a jamais le risque zéro, mais on a moins de risques. Et dans d'autres cas, attention, ce n'est pas vraiment à mettre dans toutes les mains.
Oui, c'est un peu comme les ciseaux à bourron et à bout pointu. J'ai envie de dire, des fois, on peut avoir besoin des bouts pointus, mais il ne faut pas le mettre dans les mains d'un enfant de 6 ans. Ça peut être compliqué, en gros.
Voilà, exactement.
Gros. Tu parlais de marketing tout à l'heure. Quels sont, pour toi, les mors qui, a priori, ont plus de marketing que les autres? Parce qu'il y en a qui sont très beaux comme mors. Alors, tu vois, là, j'ai en tête les mors un peu multicolores, un petit peu bleus. C'est vrai que ça fait waouh quand c'est dans le rayon. Bah, voilà. Est-ce que là, pour le coup, c'est marketing, clairement? Est-ce qu'il y a un bénéfice, sinon, pour le cheval, toutes ces couleurs, ou pas plus que ça?
Alors, il faut savoir que dans certains cas, il y a des marques qui jouent uniquement sur la couleur pour essayer de vendre leurs produits. Il y a d'autres marques qui produisent de très bons produits, mais qui savent qu'en effet, le fait d'avoir une couleur particulière, ils le vendront plus facilement parce que, bon, nous sommes des humains, on est toujours attirés par l'œil et par la beauté de l'objet. Donc, ça passera, on va dire, un petit peu mieux d'acheter quelque chose de plus joli. Donc là, il va falloir faire très attention et se dire, bon, ben, il y a des choses, on se dit, si le mort existe dans 3 couleurs différentes et c'est exactement le même, c'est sûr, c'est un coup du marketing. Si on a un mort qui existe, par exemple, uniquement dans une couleur, mais c'est parce que c'est pour le rendre plus joli et en même temps, techniquement, c'est un bon mort, bon, voilà, on lit l'utile à l'agréable, on va dire ça.
D'accord.
Comme ça. Donc, ça, c'est important. Il y a des marques qui donnent une explication sur le pourquoi du choix de la couleur. Il y a certains mors qui sont recouverts d'un vernis aussi, mais qui peuvent avoir un aspect plus rouillé par après. Donc, généralement, ils expliquent pourquoi c'est produit de cette façon-là. Donc, voilà, ça, c'est des choses, il faut se renseigner. Je pense que souvent, les revendeurs dans les selleries vont pouvoir bien l'expliquer. Après, c'est vrai que normalement, ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir un produit assez stable dans la bouche du cheval ou qui a une petite oxydation mais qui n'est pas toxique pour le cheval.
Ça marche. La question me vient, je pense aux mors qui ont des goûts. J'ai une copine qui a acheté un mor goût pomme. Quel est ton ressenti? C'est pour le bien-être aussi ou pareil, c'est un petit peu marketing?
Et ça, c'est un mot de marketing. Voilà. Normalement, on est parti en fait sur des principes. C'est que quand on avait un goût et comme le métal qui s'use dans la bouche du cheval va donner un certain goût, on va favoriser ou non, on va dire, la salivation du cheval.
D'accord.
Donc, c'est toujours parti de ce principe-là. Le cheval doit se décontracter sur le mors, doit un petit peu saliver. Et de ce fait-là, on dit, ben, s'il a un petit goût, s'il donne un petit goût, il va saliver plus facilement. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, le cheval, il va un petit peu saliver et se décontracter uniquement si le mors lui convient. Qu'il ait un goût ou pas de goût, ça ne va pas lui changer grand-chose.
D'accord.
Donc, voilà. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, avec les mors en titane qui n'ont pas du tout de goût, qui sont très stables en bouche. Si le type, le modèle de mors en titane convient au cheval, eh bien, il va très bien pouvoir saliver et se décontracter, mais uniquement si le modèle lui convient.
D'accord.
Donc, il faut faire un petit peu attention avec ces histoires de goût ou d'interaction dans la bouche de certains métaux aussi.
Ok. Tu parles de décontraction, de salivation. Ce sont des signes que le mors convient bien. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que le cheval a bien la bouche fermée sur le mors, qu'il est confortable, qu'il ne tire pas la langue en dehors de la bouche, qu'il n'ait pas de signe de défense, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dur en bouche, qu'il ne soit pas lourd en bouche, qu'on ait un contact et une communication continue et agréable avec le cheval, qui ne vous arrache pas les rênes des mains, comme c'est souvent l'expression, qu'il ne prenne pas le mors aux dents. Hein, c'est souvent un signe. Le cheval qui mord son mors quand vous l'enlevez de la bouche et vous voyez qu'il est complètement mastiqué, on va dire ça comme ça, c'est vraiment un signe d'inconfort du cheval. Donc après ça, on a les signes biomécaniques, c'est-à-dire que le cheval qui va être beaucoup plus confortable, et ça concerne le filet et l'enazure également, c'est-à-dire que s'il est confortable à l'avant, c'est bien sûr qu'il va avoir une meilleure mobilisation, une meilleure mobilité. Et ça s'est prouvé scientifiquement, anatomiquement, puisqu'on a toutes les chaînes musculaires qui sont reliées entre elles. Et de ce fait-là, si tout se passe mieux devant, forcément, on aura une meilleure action à l'arrière et inversement.
Okay. Alors, quelle est la différence? Parce que je pense que pas mal de gens ne la voient pas. et ils se disent quand le cheval mâchonne son morgue, c'est que c'est bien, c'est qu'il est décontracté. Alors, quelle est la différence entre je mâchonne parce que je suis décontracté et en fait je suis crispé dessus, ou je le mords mais parce que il est pas dans la bonne position dans ma bouche. Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur...
Oui, alors c'est très difficile à expliquer, mais en fait, cette histoire de décontraction, c'est la mobilité de la mandibule du cheval. Et donc, en fait, ça, c'est l'effet de balance du cheval. Et on peut l'avoir aussi en sang mort. C'est-à-dire, le cheval qui est contracté, il va serrer les dents, on va dire ça comme ça. Il ne va pas du tout se décontracter. Il ne va pas avoir une bonne mobilisation de son corps. Et s'il a un mort, ça va se traduire par, en fait, prendre le mort et le mordre entre ses dents.
D'accord.
Ce qui est très différent de cette idée de décontraction où le cheval va laisser son mort en place dans la bouche et va juste avoir un mouvement de la mandibule. D'accord. Ça, c'est l'effet de décontraction. Et donc, il peut avoir avec ou sans mort.
D'accord, ok. Donc, quels sont les signes que c'est pas ok ? Là, c'est flagrant que ça va pas.
Oui, et eh bien donc comme je vous ai dit, mordre le mort, secouer la tête, n'être pas du tout réceptif aux actions de main ou aux demandes du cavalier par exemple, et donc tous ces signes d'inconfort, il y a des chevaux, on monte à peine dessus et ils partent en trombe, on va dire, de l'autre côté de la piste ou de la carrière, et donc ça sont toutes des réactions qu'ils peuvent avoir parce que ça leur va pas. Refuser de prendre le mort aussi quand on lui présente, il y en a certains, même rien que pour mettre le filet, il faut presque se, entre guillemets, battre avec eux. Ça, ce sont tous des signes auxquels on doit être attentif. Aussi être attentif, par exemple, si vous voyez tout ce qui peut être des petites lésions au niveau des commissures des lèvres, petites ou évidemment malheureusement grosses, à l'intérieur de la bouche du cheval, sur la langue, les barres, etc. Donc ça, ce sont tous des signes auxquels on doit être attentif.
Toi, tu préconises de vérifier tous les combien de temps sont morts, ou ses dents d'ailleurs, parce que c'est, je pense que c'est lié, la bouche et le mort.
Oui, alors, mais au niveau soins dentaires, ça c'est clair que le soin annuel s'impose pour tous les chevaux, on va dire montés ou pas, hein, c'est vraiment tous les chevaux, tout âge, ils doivent être suivis au niveau dentisterie. Au niveau du bit fitting, moi ce que je conseille, et ça peut paraître bizarre déjà, mais déjà au débourrage. Avoir un bon mort pour le débourrage du cheval. Parce que souvent, on se dit, ben, on a un mort et avec celui-là, on a débourré tous les chevaux. Ben non, on est tous différents, on ne marche pas tous avec le même type de chaussures. C'est pareil pour les chevaux aussi. Donc déjà, si ça se passe bien dès le départ, avec quelque chose qui convient au cheval, eh bien, le débourrage va se passer beaucoup plus facilement. Après, généralement, entre le cheval qui est débourré et qui arrive chez son cavalier habituel, le cavalier monte différemment, on va devoir avoir besoin d'autres matériels. Le cheval va évoluer dans le travail, on va avoir besoin à nouveau de nouveaux matériels. Et ça, même si on a le même cavalier. On a un ou une DP, on peut être appelé à avoir de l'autre matériel, un autre mort, un autre filet pour le ou la DP. Le cheval va évoluer et va avancer en âge, donc sa bouche va changer aussi, sa conformation va changer. On va être appelé aussi à devoir changer de matériel. On n'a pas encore de recul ou de recherche scientifique qui permette de dire ou qui impose, par exemple, en disant, voilà, il faut revoir le bitfitter tous les 6 mois ou tous les ans. Mais c'est sûr que dans certains cas, j'ai des cavaliers qui me rappellent au bout d'un an, au bout de 2 ans, par exemple, parce qu'il y a eu des changements, soit physiques du cheval, soit dans le travail, le cheval a évolué. Et en plus de ça, ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est que tous les ans, on a des nouveaux modèles de mors et de filets, et même dans Azur, qui sont sur le marché. Alors, peut-être que je n'ai pas pu, ainsi que les autres collègues bitfitters, apporter comme solution au cheval il y a un an parce que ça n'existait pas. Eh bien, d'ici quelques mois, on pourra apporter une amélioration, une solution beaucoup plus précise, on va dire, parce qu'on a du nouveau matériel sur le marché.
Ouais, donc, si je résume, quand il est jeune, on va dire plutôt régulièrement. En plus, c'est toi qui me l'as dit, mais c'est un peu aberrant de mettre un mort avec des gros canons dans une bouche toute petite et toute jeune.
Exactement.
Et puis, ça grandit vite, entre guillemets, au départ. Donc, c'est vrai voilà. Que faire régulièrement. Après, avoir en fonction des changements, des ressentis, du ressenti du cavalier,
oui.
Du cheval, des signes du cheval, etc.
Exactement.
Et, comme tu le dis, entre guillemets, il y aura peut-être des améliorations qui seront arrivées sur le marché et qui pourraient convenir mieux.
Oui. Et puis, les changements physiques, comme je dis, du cheval. Par exemple, une jument qui a été dans le sport, puis qu'on a mis à l'élevage, et puis qui reprend un petit peu le travail par après, elle a changé physiquement. Il est fort possible que le matériel qui était utilisé avant sa période de repos et de gestation ne va pas être le même après. Idem pour les cavaliers, d'ailleurs. Ça paraît assez logique, mais bon, pour le cavalier qui était très sportif à une époque, qui fait une petite pause et puis qui reprend l'équitation, sa posture ne va pas être la même. De ce fait-là, on va être appelé aussi à pouvoir changer le matériel du cheval.
Bah, c'est vrai que c'est logique, mais en fait, il faut le dire. C'est un peu bizarre, mais faut en prendre conscience, quoi. Alors, un bon mort, du coup, c'est quoi ? En termes de longueur, d'épaisseur, je comprends que ça dépend du cheval, que tu nous as invité à regarder la bouche. Et en termes de composition, parce que j'ai, pareil, pas mal de matériaux, le caoutchouc, la résine, l'acier, différents alliages. Tu parlais du titane.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux donner comme indice pour nos auditeurs qui seraient peut-être perdus devant tous ces choix ?
Alors, déjà, le bon mort, c'est celui qui convient à nouveau au cheval et au cavalier. Donc ça, c'est déjà un point 1. Au niveau de la longueur et de l'épaisseur, mais surtout qu'il ne soit pas trop long, parce que sinon, il va bouger dans la bouche du cheval. Ça va être tout à fait désagréable pour le cheval. Pas trop court non plus, sinon il va pincer aux commissures. Du coup, à nouveau, ça va être désagréable pour le cheval. Bien souvent, ce que je vois, c'est qu'ils sont trop longs. Donc ça, c'est souvent un problème, c'est que le mort est trop long. Du coup, il va bouger beaucoup plus. C'est très désagréable pour le cheval.
Et on met les rondelles, ça marche ou ça marche pas ? C'est une fausse bonne idée ?
Ça peut aider, mais pas toujours. Donc d'accord. En fait, le mieux, c'est d'avoir directement, on va dire, la bonne longueur de mort. Ça, c'est sûr. Au niveau de l'épaisseur, à nouveau, souvent, on a tendance à prendre des canons trop gros, parce qu'on a tous entendu ou appris plus épais, c'est plus doux pour le cheval. Mais trop gros, trop grand, c'est aussi inconfortable. Donc ça, regardons dans la bouche du cheval. Composition, c'est vrai qu'au niveau de la composition, bon, il faut faire toujours attention à un peu ce qui est synthétique. Certains chevaux peuvent réagir à certains matériaux synthétiques, peuvent aussi causer des brûlures dans certains cas. À l'hygiène aussi, l'entretien du matériel, surtout pour les synthétiques, s'ils sont un peu abîmés, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, on va devoir les remplacer plus rapidement. Le cuir, certainement. Et par rapport à tout ce qui est acier inox, bon, on va dire l'inox est assez stable et stable en bouche. Le titane, exactement. Par rapport aux alliages, eh bien là, il va falloir voir aussi l'état d'oxydation. Il faut savoir que le métal, de toute façon, va changer en consistance et en épaisseur avec les années. Donc, à nouveau, c'est vrai qu'il va falloir revoir son matériel. Le matériel peut s'user et veiller aussi bien à la qualité du matériel et à l'état d'usure du matériel. Et idem pour les filets. Il m'arrive souvent d'avoir des lanières de cuir qui tiennent plus que par un petit millimètre. Donc, et c'est au moment de la consultation que les cavaliers s'en rendent compte qu'en fait, ils sont déjà toute une période en train de monter avec soit des rênes très, très usées, soit un filet très usé qui, même à mort, à tout moment, risque de se casser et donc de représenter quelques risques, quoi.
Oui, si on est au galop, ça peut être chiant.
Voilà.
Et aiguille ou anneau ?
Alors, les aiguilles sont surtout utilisées pour les jeunes chevaux. Par après, ça peut être dangereux, par exemple, dans certaines disciplines. Par exemple, pour le horseball, c'est interdit parce qu'on pourrait s'accrocher. Donc, c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, un type de mort de transition.
D'accord. Je pense qu'on a tous connu un cavalier qui s'est fait empaler par son cheval quand son cheval venait se frotter sur lui. C'est vrai que c'est pas très agréable non plus.
Non.
Est-ce que tu as des conseils sur l'entretien du mort ?
Alors, oui, le rincer à l'eau claire, eh bien, le frotter après chaque utilisation. Ça ne se voit pas toujours et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais ça, c'est le plus simple. Vraiment, à l'eau claire et bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de reste d'aliments ni de salive. Parce que déjà, rien que ça, quand on va remettre dans la bouche du cheval, ça peut créer des irritations et forcément des petites blessures, surtout aux commissures. Donc, c'est éviter. Et le plus simple, c'est l'eau claire.
Ok. Comme nous, quoi. Faut laver notre fourchette, en gros,
voilà,
à chaque fois.
Voilà, exactement.
Et question sur le marché de l'occasion, parce qu'on en parle rarement, mais il y a quand même des gens qui achètent leur mort de seconde main, parce que pour conviction personnelle, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas trouvé le modèle qui leur convient. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Alors, tout ça va dépendre du type de mort qu'on va retrouver en seconde main. Je dirais déjà, par exemple, pour tout ce qui est en mort synthétique, il y a beaucoup plus de risques. Il s'est quand même été un petit peu abîmé précédemment et ce n'est pas toujours conseillé de les racheter, sauf s'ils sont vraiment en état neuf. Après ça, tout ce qui est en mort en métal, s'ils n'ont pas été abîmés, il y en a qui restent bien et en bon état pendant très longtemps. Puis, il y a toutes les personnes aussi qui ont acheté plusieurs morts, qui ne les ont essayées qu'une seule fois et qui, en fait, se sont rendues compte qu'ils ne convenaient pas du tout à leur cheval. Et là, ce sont vraiment les bonnes occasions à faire.
Oui, je me doute. Presque neuf, en gros, mais à prix occasion.
Voilà.
Et l'oxydation sur les morts, par exemple, qui sont vraiment rouillés, là, il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien d'aller enlever la rouille. Parce que de toute façon, elle reviendra un jour ou l'autre et c'est pas terrible.
C'est moins conseillé, en fait. Oui. Mmh.
Ça marche. Oh, depuis tout à l'heure, on parle du cheval. Là, on commence un petit peu à parler du cavalier, en parlant de seconde main, derrière, de son portefeuille, etc. Mais le cavalier, lui aussi, tu dis que le mort doit lui convenir. Comment tu arrives à jauger ça, en fait ? Comment tu te dis que ce mort ira mieux à ce cavalier-là ? Sur quels critères tu te bases ? Est-ce que tu le regardes monter ? Est-ce que tu lui demandes ? Comment tu fais ?
Oui, alors je le regarde monter, j'ai mon avis d'observateur au sol, et il y a l'avis du cavalier, c'est-à-dire qu'il y a lui ou elle, son ressenti à cheval. On doit avoir un bon ressenti, donc un bon contact, on va dire, bien moelleux, comme on dit, dans la bouche du cheval. Si le cavalier dit « je dois mettre plus de force, plus d'action de main pour demander la même chose à mon cheval », que ce qui est souhaité, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon en fait. Donc on va essayer d'éviter ça, donc de vraiment avoir ce contact léger et agréable dans toutes les situations en fait. C'est ça qui est très important. Et de ce fait-là, oui, l'avis du cavalier compte et l'observation aussi, parce que parfois, ce qui peut être comme contact moelleux pour le cavalier ne l'est pas du tout pour le cheval. Donc on a vraiment notre rôle d'observateur et on va dire de guide. Généralement aussi, ce qu'on voit à l'œil, si on fait des mesures, par exemple avec le tensiomètre sur les rênes, ça va être confirmé avec le tensiomètre sur les rênes. On a aussi des cavaliers qui ont une main plus forte que l'autre, par exemple, souvent, ou par la posture aussi. Donc ça va être très important aussi d'aller choisir, on va dire, le matériel qui va convenir et au cheval et au cavalier, tant qu'on va dire ce problème de main ou de posture n'est pas corrigé. Mais voilà.
Donc, il y a deux choses. Tu m'as parlé d'observation et tu m'as parlé du tensiomètre. Parce que c'est vrai que tu équipes le cheval et le cavalier. Tu mets en fait une espèce de capteur sur les rênes.
Oui.
Comme ça, tu sais exactement quelle force a exercé le cavalier à quel moment.
Exactement. Donc, oui, on peut travailler aussi avec le tensiomètre sur les rênes. Et donc, le but, c'est d'avoir évidemment un bon contact agréable et pas des pics de pression ou de tension exubérants.
Et alors, scientifiquement, un bon contact, c'est combien de kilos dans une reine ?
Alors ça varie, mais donc on a le cheval en mouvement, mais généralement on est aux alentours de 500 grammes jusqu'à 1,5 kg.
Ouais, donc c'est pas grand chose en fait.
Non, c'est pas grand chose.
Et alors, question qui tue, mais si jamais on met un bon coup de rein quand on est fâché là et qu'on tire un bon coup sur les rênes, ça monte à combien de kilos d'un coup ?
J'ai des cas où on monte à 10 ou 20 kilos.
Ouais, donc ça peut faire mal en fait, on s'en rend pas compte, mais on fait sacrément mal quoi.
Oui.
Ok, bon, c'est noté. Et au niveau conviction, est-ce que tu as des cavaliers qui t'ont dit « Non, moi, j'achète pas ce mort-là parce que c'est pas dans mes convictions personnelles
» Non, plutôt pour les bridons, par contre. Et ça, c'est plutôt pour l'esthétique, ce qui est des fois très dommage.
D'accord. Ok.
Oui.
Donc, c'est plus, en fait, le mort, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Peu importe la marque, peu importe le modèle, tu n'as pas trop de problèmes.
Non, parce que comme généralement, les cavaliers qui font la démarche, ils savent qu'on veut trouver quelque chose qui est simple et bien et qui convient au cheval et puis ils ressentent eux-mêmes la différence, donc ils sont généralement très convaincus. De ce fait-là, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et c'est souvent plutôt pour le filet parce que même si, on va dire, le modèle convient très bien au cheval, il y a toujours ce petit côté esthétique qui n'est pas toujours présent et qui est beaucoup plus difficile. Voilà.
Ok. Bon, on note. Et tu en as beaucoup quand même qui refusent ? Non, c'est une toute petite proportion.
Non, parce que franchement, les personnes qui ont fait vraiment la démarche, Déjà, c'est une démarche de faire appel au conseil du beatfitter. Et puis après, généralement, ils sont convaincus de ce fait-là. Il n'y a pas de difficulté. Et au contraire, parfois, ils veulent partir avec mon matériel d'essai et l'emporter directement. Donc, non, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là.
Ah oui, parce que c'est vrai que toi, tu n'as pas de marque attitrée. Tu proposes le mort qui convient le mieux. Et tu ne le vends pas. C'est ça qui est important.
Exactement, oui.
Tu donnes juste la référence et au cavalier, après, d'aller l'acheter ailleurs, mais pas avec toi.
Oui, j'ai une liberté par rapport aux marques et du coup, je fais ma sélection de matériel et avec ça, en fait, voilà, c'est pour trouver la meilleure solution pour tout le monde, en fait.
Non, mais c'est bien d'être neutre parce que c'est vrai que parfois, on a un peu peur de faire appel à des experts qui sont liés à des marques parce qu'on se dit, bah, ils vont forcément me vendre le matériel de la marque qui peut être plus ou moins bon marché,
oui.
Souvent pas très bon marché. Et auquel cas, toi, je trouve ça super d'avoir cette liberté-là, justement. Peut-être qu'on peut parler de l'association que tu diriges, du coup. Est-ce qu'ils sont tous comme toi, tous libres?
Alors, oui, on essaye vraiment d'avoir ça comme optique et code de déontologie, d'être avec des conseils tout à fait neutres par rapport aux marques et aux choix qu'on va faire. Donc, toujours dans l'importance du confort du cheval, du bien-être du cheval et pour le cavalier aussi. Donc, c'est très, très important. Moi, je trouve le deuxième point, c'est la sécurité du cavalier. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un cheval qui prend le mort aux dents, en fait. Et de ce fait-là, on a ce code de déontologie qui est accessible d'ailleurs sur le site de l'association. On a la liste des membres et les zones d'activité dans chaque département en France où on peut faire appel à nous. Et de ce fait-là, on a vraiment cette optique-là de rester très neutre dans nos choix.
Rappelle-nous le nom de l'association et du site.
Alors, c'est l'association Beatfitting France.
Donc, si je tape sur Google Beatfitting France, je vais tomber sur toi?
Normalement, on va tomber sur l'association.
Oui. La page Facebook s'appelle Beatfitting France également.
Oui, c'est ça.
Okay. Il y a un Instagram, il y a un YouTube.
Alors, il n'y a pas encore d'Instagram, mais ça va venir.
Ok, on attend alors.
Oui.
Ça marche. France et Belgique aussi, ou que France?
Alors, France, Belgique par rapport à moi, et un peu de Suisse aussi.
D'accord, ok.
Voilà.
Non, mais c'est bien pour les gens qui sont limitrophes.
Oui,
ils savent qu'ils peuvent aller sur le site Beatfitting France et malgré tout, trouver des gens chez eux.
Exactement, oui.
Ça, c'est super. Si le beatfitting ne concerne pas uniquement le mort, est-ce que globalement, pour la tête du cheval, faire disparaître le mort, ça résout les problèmes?
Alors, je pense que c'est une bonne question, mais certains chevaux vont quand même être mieux avec un mort. Ça peut paraître aberrant comme réponse, mais c'est souvent une constatation. C'est-à-dire, si on a des chevaux qui ont été montés toute leur vie avec un mort, c'est parfois difficile de les faire passer au sans mort. Il y en a d'autres, ils vont être soulagés, en effet. Et il y en a d'autres, ils ont été tellement, on va dire, pris dans le système qu'ils préfèrent avoir ce mort dans la bouche. Il y en a certains aussi qui sont vraiment mieux avec un mort dans la bouche pour la sécurité du cavalier. Que c'est grâce à ce petit mort, même tout simple, tout gentil, que le cavalier a quand même un frein. Et qui va dire sinon ils partent au galop, on va dire, avec une en azure. Donc c'est vrai, on peut refaire le reproche, oui, mais il y a la partie d'éducation du cheval, etc., etc. Je dis toujours, il faut mettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité. Il ne faut pas partir dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans l'extrême. Tous les chevaux doivent être avec un mort ou tous les chevaux doivent être sans mort. Il faut voir au cas par cas. J'ai des cavaliers qui se sentent plus en sécurité avec un mort que sans mort. Et si on leur met du sans mort, ils vont tirer sur les rênes parce qu'ils ont peur. Et de ce fait-là, ils vont causer autant de dégâts et d'inconfort pour le cheval que si c'était quelqu'un qui montait mal avec un mort. Alors que si on met un mort dans la bouche de leur cheval, ils sont vraiment détendus et on n'a vraiment pas de tension dans les rênes. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour le cheval, en fait. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment prendre cas par cas et pas apporter de jugement très intempestif et très extrême, en fait.
Binaire, pas de,
voilà.
Pas de côté binaire, en fait.
Non, exactement. Le cheval, c'est vraiment une histoire, on va dire, personnelle avec son cavalier aussi. Et de ce fait-là, il faut respecter aussi ses choix, dans le sens où on est dans le bien-être du cheval, bien sûr. On ne va pas aller mettre un mort en barbelé, mais même chose aussi, on va éviter la chaîne de vélo sur le nez du cheval. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas viser les extrêmes et il faut respecter aussi les choix de chacun.
Alors, les en azur, en gros... comment ça marche? pas forcément dans le détail, mais tout ce qui est type hackamore, licol éthologique, side pull, ça intervient sur quoi si on n'intervient pas sur la bouche du cheval?
Alors, ça intervient donc sur les différentes zones sensibles du cheval, qui sont par exemple les foramen, d'où sortent les terminaison nerveuse du cheval, donc on va avoir une action là-dessus, donc sur vraiment toutes les parties sensibles de la tête du cheval. Donc en azur, comme on disait sur les morts, on pourrait mettre une gradation et faire un classement du plus gentil au plus méchant. On a exactement la même chose au niveau des en azur. Souvent on dit ah mais en azur c'est gentil, il n'y a pas de mort. Non, il faut bien faire attention. Il y en a qui sont douces et il y en a d'autres qui peuvent être très méchants. Donc ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on en fait.
Qu'est-ce qui est doux par exemple et qu'est-ce qui est méchant?
Alors, dans le doux, même en side pull, par exemple, ça va dépendre de si on utilise du cuir souple, si on va mettre de la corde, si on va mettre de la chaîne de vélo. On va avoir un side pull qui est, par exemple, plus gentil ou plus dur.
D'accord.
Voilà.
Mais entre les trois, hackamore, side pull et licol éthologique, ça dépend trop du cheval pour qu'on les classe.
Ça va dépendre vraiment du cheval et de l'utilisation qu'on va en faire, sachant que le licol éthologique, normalement, ne devrait être utilisé qu'au sol, parce qu'il est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, dangereux, monté pour, par exemple, les zones sensibles du cheval, comme principalement la nuque du cheval.
D'accord, donc la nuque... Et vraiment un point qu'il faut veiller à dégager, qu'on soit en azur ou en briderie.
Oui, à protéger en tout cas.
À protéger.
Oui.
Et c'est bien pour toi toutes les dernières nouveautés sur les bridons qui arrivent avec des ponts, des mousses. Ou je pense
oui,
par
je
exemple
qu'il y a...
ou Kilpen où tu peux venir rajouter un petit coussin en laine dessous.
Alors, je pense qu'il y a un réel souci des marques, justement, une réelle sensibilisation qui viennent que des cavaliers, mais aussi des marques à essayer de trouver le bien-être du cheval et le confort du cheval. Après, il faut éviter les extrêmes aussi. Et des fois, à vouloir trop bien faire, on peut aussi mal faire. Donc, je pense que ça sont des choses pour à l'avenir et même dans le futur. Pourquoi pas, quand on pourra faire des essais et des recherches scientifiques sur le sujet, dire voilà, vraiment, dans ces cas-là, on peut apporter plus de confort et de bien-être au cheval. Mais oui, certainement, c'est une zone à protéger.
Si on devait faire un comparatif pour nous, par exemple, si jamais on utilise de l'école éthologique et le cheval, bah, du coup, il se prend cette petite action sur la nuque, pour nous, si on devait transcrire avec des mots sur nous, ça équivaudrait à quoi? C'est comme si on mettait un petit coup sur la nuque, là, au bas du crâne.
Alors, c'est surtout aussi par rapport aux nœuds qui sont juste placés au niveau des foramen infraorbitaires, donc de part et d'autre du nez du cheval. C'est comme si nous, on se cognait le coudre contre la porte.
D'accord.
Donc, ça fait une petite décharge électrique.
Ok.
Voilà.
Oui,
c'est pareil
ça,
pour
c'est
le cheval.
C'est pas très agréable, effectivement.
Pas tellement.
Ça fait mal. Est-ce que le cheval a des tempes? Je sais que pour nous,
oui.
Si on se prend un coup là, ça ne nous fait pas du bien non plus.
Oui.
Et lui, il a des zones équivalentes?
Il a toutes les zones au niveau de l'articulation temporomandibulaire qui est directement reliée avec l'oreille interne. Donc, c'est vraiment tout autour de l'oreille du cheval. Et oui, c'est une zone aussi très sensible.
D'où ouais, tous ces bridons avec les découpes ergonomiques qui sont de plus en plus présents
oui.
sur le marché. Toi, tu vois des vraies tendances sur ça d'ailleurs? De
oui.
plus en plus de marques s'y mettent.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc tu as de plus en plus de choses à conseiller aux gens.
Exactement.
Dans ce sens-là.
Il y a plus de choix, mais ça rend le choix beaucoup plus difficile pour le cavalier qui ne s'en
ouais.
sort pas quand il va dans la sellerie parce que
il a
un peu trop
de choix.
Voilà.
Et comment je choisis bien, puisqu'on parle du choix, mon matériel en fonction de ma discipline? Est-ce qu'il y a des choses où, par exemple, j'aime. Alors, je dis un exemple, hein, mais moi, je fais de l'endurance. Imaginons que je sois hyper fan de western. Est-ce que je pourrais mettre un bridon western sur mon cheval d'endurance?
Alors, ça va dépendre justement si avec ton cheval d'endurance, tu vas faire du western ou tu vas faire de l'endurance.
Et si je fais de l'endurance?
Alors là, non. Normalement,
d'accord.
On va veiller justement au confort et donc à la discipline qui va être faite. Donc, pourquoi? Parce que on a des points de pression et des actions qui vont être différentes que soit avec le bridon et le mort de western qu'avec ce qu'on va avoir en endurance. On sait que l'endurance, mais on va le mettre plus longtemps, on va avoir plus de zones de frottement, donc ça va pas être toujours très agréable avec certains types de bridons et de morts western, par
d'accord,
exemple.
D'accord, ça marche.
Et inversement.
Ah oui, c'était une vraie curiosité. Parce que tu vois, je pense au bridon à une oreille, on pourrait se dire « Ah bah c'est génial, il n'y a plus le frontal qui va venir gêner », mais finalement, c'est pas le bon plan parce que le bridon une oreille, il convient aux chevaux western qui ont probablement une position de tête qui fait que ça marche.
Exactement, qui va être différente. Et puis, on va pas le monter pendant des heures non plus avec ce type de bridon.
D'accord.
Voilà.
Bon, ben, on ne mettra pas de bride non plus, j'imagine, un cheval d'endurance. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution du bitfitting en France ? Alors, je m'explique, c'est relativement nouveau, à mon sens, le bitfitting. Peut-être plus que le saddle fitting encore.
Oui, alors c'est beaucoup plus récent que le saddle fitting, mais c'est vrai qu'on peut dire que ben justement, grâce aux réseaux sociaux, aux articles qui sont déjà parus, aux événements, on va dire comme les écuyers études à Chantilly, etc., on parle de plus en plus du bit fitting et on peut dire que c'est quelque chose qui devient assez, on va pas dire très connu, mais dont on parle dans le milieu des cavaliers. Ça,
donc,
oui.
On fait de plus en plus appel à toi. Toi, tu le remarques en tout cas ?
Moi, je le remarque, ça c'est sûr. Et je pense que les autres collègues bitfitter le remarquent aussi. Que c'est vrai qu'il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que les cavaliers qui sont satisfaits n'hésitent pas à en parler et à le dire aux autres cavaliers. Et surtout, pour certains cavaliers, c'est une réelle découverte. Parce que beaucoup appellent, parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans les ennuis ou parce qu'ils avaient essayé eux-mêmes plusieurs morts et qu'ils ne s'en sortaient pas. Et c'est le fait de ne pas s'en sortir, ce n'est pas une faiblesse du cavalier. C'est vraiment aussi une attitude ou un constat qu'on a. On a des chevaux qui ont été élevés différemment, qui sont entraînés différemment. Souvent, les chevaux de sport aussi sont beaucoup plus hauts en sang. On pourrait dire ça comme ça. Ils sont beaucoup plus sensibles qu'avant. On a toujours des chevaux à l'heure actuelle où on pourrait mettre entre guillemets n'importe quoi. On en connaît tous comme ça. On peut mettre n'importe quel mort, n'importe quel filet et tout marche. Et d'autres chevaux, le moindre réglage, on change quelque chose de 2 mm, un petit trou de réglage différent et le cheval est transformé ou pas en fait. Donc ça c'est aussi un constat actuel, c'est que en fonction des chevaux qu'on retrouve sur le marché et qu'on rencontre, on a des chevaux de plus en plus sensibles et de ce fait-là qui sont quelque part eux-mêmes plus demandeurs à du matériel beaucoup plus adapté. Et de ce fait-là aussi, ça va rendre les choses plus compliquées pour le cavalier qui va se trouver désemparé face à ce cheval-là alors que son autre cheval, il lui avait trouvé le mort directement qui convenait sans souci. Donc voilà, oui.
Donc, quand on est désemparé, comme tu le dis, humainement, en fait, on a toujours tendance à vouloir durcir le mort. Et on n'a pas parlé des jouets. En fait, je me dis juste que dans toute notre conversation, on n'a pas parlé de tout ce qui est gel d'acceptation, tout ce qui est jouet, tout ce qui est anti-passe-langue. Je pense que tu invites plutôt les gens à chercher une autre alternative plutôt qu'à les utiliser.
Certainement. Ce sont des choses qui sont à éviter et aller plutôt trouver la source du problème avant de passer à des choses comme ça.
Parce que le jouet, c'est une fausse bonne idée, en fait.
Exactement.
Il ne va pas jouer avec, en fait, le cheval.
Non, du tout. Du tout.
OK. Et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça fait, tous ces articles-là, dans la bouche des chevaux ? Pour donner une idée, tu vois, est-ce que ça les empêche d'utiliser leur langue ? Mais pour nous, en gros, si on devait faire un comparatif, c'est comme si on avait un baillon dans la bouche, c'est comme si on pouvait plus bouger la langue.
C'est difficile de comparer, mais je veux dire, on doit de nouveau retomber sur des choses beaucoup plus simples, parce qu'en fait, là, de nouveau, on est dans une escalade de choses et d'objets qui font qu'après, ça va être très difficile de retomber en arrière. Et souvent, c'est parce qu'on a pas écouté ou qu'on a vu des signes d'inconfort et qu'on ne sait pas vraiment comment y remédier. Alors d'abord, il faut d'abord éviter tout ce qui est des signes physiques et puis surtout faire constater la bouche de son cheval et puis après choisir du matériel qui va convenir mieux au cheval. Et on va voir directement qu'on aura cet effet de décontraction, qu'on aura plus de cheval qui passe sa langue au-dessus du mort, etc., etc. Donc ça, c'est vrai qu'il faut d'abord analyser le problème. Où se situe le problème ?
Toi, c'est toujours comme ça hein, que tu démarres. On fait rapidement le descriptif d'une de tes séances de bitfitting. Toi, tu arrives, tu regardes la bouche du cheval, tu regardes à peu près comment il est, tu fais un check, on va dire, de santé.
Oui.
Tu demandes où il en est en termes d'ostéo, etc. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Si elle a été vue, si elle est bien adaptée, les problèmes du cavalier aussi, même les problèmes physiques. On a des personnes qui ont des problèmes physiques eux-mêmes, déficience musculaire, qui ont une fracture, par exemple, qui s'est mal ressoudée. Du coup, ils ont une faiblesse plus d'un côté que de l'autre. Tout ça, c'est important. Donc vraiment, tout le cheval est important, tout le cavalier est important.
Et puis après, pour la séance...
Une observation
une
dynamique.
Une observation.
Voilà.
Moi, tu m'avais fait monter avec mon mors, je crois,
oui,
pour étaler.
Oui, toujours. D'abord, avec le matériel habituel.
Et
oui.
Puis après, toi, tu proposes des solutions.
Oui.
Et puis pour la séance, je me rappelle qu'on avait poussé à « essayons ça » parce que je sais que ça n'ira pas à ton cheval.
Voilà,
pour
exactement.
Que je vois justement la différence moi-même.
Oui.
Tu fais ça pour tous les cavaliers aussi, pour qu'ils se rendent compte?
Non, je ne fais pas ça pour tous les cavaliers, mais c'est vrai que des fois, on peut entre guillemets s'amuser. Okay. Tant qu'on fait pas mal au cheval. Mais
oui, non.
Voilà,
quand t'as des terrochons, mais ça va, il a survécu.
Oui.
Ça marche. Si on veut te joindre...
Oui.
On peut aller. Tu as une page Facebook en particulier ou tu préconises toujours la page de l'association quoi qu'il arrive, Beat Fitting
Alors,
France.
J'ai la page Facebook. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, me posent d'abord chez moi les questions et puis que je réfère par exemple à des collègues qui font partie de l'association, par exemple. Oh, sinon, il y a ma page Facebook. On peut me joindre. Il y a mon site, donc on peut me trouver.
Qui est du coup ton site?
Alors, mon site et ma page, c'est EquiBeatFit.
Ok.
Et donc, .com.
Donc, EquiBeatFit, EquiBitFit.
C'est ça.
Parfait. Dernière question, Géraldine. La question de la fin, pour le mot de la fin. Si je devais te dire le lien cavalier-cheval, quel est le premier mot qui te viendrait à l'esprit?
Bonne question.
C'est pas forcément le mot mort. Si c'est celui-là, ça
non,
va.
Non,
mais...
c'est ça. Moi, c'est le premier mot, c'était communication.
Ok.
Alors ça peut tout regrouper, puisque on a la communication verbale, non verbale, donc voilà.
Super. Bah, j'aime beaucoup. Comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu le lien avec le mort, mais pas trop.
Exactement.
C'est parfait. Merci beaucoup, Géraldine, pour ton temps. C'était super. Je te souhaite une bonne après-midi.
Merci Angélique pour ce podcast et j'espère que, chers auditeurs, cela vous plaira.
J'espère aussi.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau, c'est la fin de notre épisode. Le mort leur va si bien. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez découvert des choses sur l'accessoire plutôt banal qu'on utilise sans même s'en rendre compte, qui est le mort. Si vous êtes curieux, eh bien allez donc lire mon article sur le blog qui s'appelle « More and Best, un mort mais en mieux » ou aussi tous les articles qu'a pu écrire Géraldine et ses collègues sur le site equibitfit.fr ou beatfittingfrance.com. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook « J'entraîne mon cheval » ou Instagram « @j'entraîne mon cheval ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt !